7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et nous parlons d'éducation comme chaque vendredi et d'insertion professionnelle. La revanche des littéraires est-elle possible? Peuvent-ils intéresser les entreprises au même titre que les ingénieurs par exemple? Nos invités Pierre-Henri Tavoyot, professeur de philosophie à la Sorbonne Paris 4 et Bernard Desforges, coordinateur de l'opération Phoenix et professeur d'histoire de la littérature grecque ancienne. Alors l'opération Phoenix qui mise à mettre en relation en France des diplômés littéraires et des grandes entreprises. Tous vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne justement avec un recruteur en France. Bonjour Charles Arkwright.
Bonjour.
Vous êtes directeur du recrutement de la division grande consommation pour L'Oréal, partenaire de l'opération Phoenix. Alors, quel est votre intérêt de recruter finalement chaque année une poignée de littéraires pour L'Oréal?
Je dirais que Phoenix, c'est pile dans la philosophie du groupe, c'est pile dans la philosophie de L'Oréal et dans notre mission, parce que ça nous permet d'acquérir différentes formes de talents. Et nous, notre travail, justement, c'est de sublimer toutes les formes de beauté pour tous les consommateurs. Donc, voilà, le but, c'est la diversité des expertises. Et ça, c'est la clé de la réussite pour un groupe comme L'Oréal. Donc, on a besoin des talents littéraires dans notre groupe.
Quelques exemples, peut-être, de profils que vous avez intégrés à L'Oréal et, ou, dont l'histoire n'était peut-être pas évidente au départ?
Absolument. Si je prends le cas de Delphine, que j'ai très bien connu pour avoir été son DRH pendant quelques temps, c'est quelqu'un qui a un master en recherche d'histoire de l'art et archéologie, qui était donc sur le papier pas du tout prédestiné à développer des produits de maquillage pour la grande consommation, pour le plus grand nombre, peut-être certains de nos éditeurs.
Donc une archéologue qui est devenue chef de produit maquillage ou quelque chose comme
exactement.
Ça.
Exactement. Qui crée et qui développe des produits pour le monde entier.
Mais comment a-t-elle pu vous convaincre hein?
Ah, comment elle a pu nous convaincre? Elle a pu nous convaincre d'abord parce qu'on était convaincus à la base de ce qu'un profil littéraire pouvait apporter comme valeur au groupe. Parce que on a souvent tendance à dire qu'à L'Oréal, on a aussi des poètes et on aime beaucoup être des poètes. Et effectivement, les littéraires nous permettent, par leur créativité, par leur maîtrise des champs lexicaux, par leur capacité à raconter des histoires, à sentir et à lire le monde différemment. Ils nous permettent de créer des produits et ils nous permettent une grande complémentarité avec des profils plus business school.
Donc finalement, vendre du maquillage, c'est un métier qui exige des compétences littéraires.
Alors, le vendre certainement, mais pour le créer déjà. Et il faut créer un produit, il faut créer une histoire autour d'un produit. Et ça, c'est clé, ces compétences littéraires apportent vraiment la différence.
Pierre-Henri Tavoyot.
Là, on touche quelque chose de vraiment de fond. Parce qu'on a le sentiment, en général, que le capitalisme, c'est le contraire de la culture et l'abolition et l'aplatissement de la culture. Il y a un livre qui vient de sortir, je vous recommande, de Gilles Lipovetsky, célèbre sociologue et philosophe, qui s'appelle « L'esthétisation du monde ». Ce livre est passionnant parce qu'il montre que le capitalisme, c'est pas simplement l'aplatissement de la culture, le capitalisme, c'est la mobilisation de la culture. Alors, à des fins qui sont évidemment pas forcément très louables, des fins commerciales, mais c'est pas la marchandisation de la culture, c'est aussi la cultivation de la marchandise. Je peux dire les deux éléments. Et ça, c'est très profond comme thèse. C'est
pour ça qu'on a besoin. Et le langage fait partie du beau, donc contribue
à créer
du beau.
Les archétypes culturels, les archétypes qui sont des archétypes des grandes œuvres, on a besoin, notamment dans les produits de luxe, de vendre de l'imaginaire. On a besoin de vendre du rêve, on a besoin de vendre. Et donc, il y a là un champ pour les littéraires qui est tout à fait colossal.
Charles Arkwright, je vous ai interrompu, mais peut-être vous avez d'autres exemples comme ça de cursus atypiques qui ont intégré L'Oréal?
Oui, absolument, parce que quand on parle de L'Oréal, on pense beaucoup marketing. En réalité, via Phoenix, on a pu irriguer dans nos différents métiers. Si je prends l'exemple d'Adil, c'est quelqu'un qui avait un master en recherche politique, sociale et société et qui est aujourd'hui DRH dans le groupe. Qui est DRH d'un pays, d'une filiale du groupe.
Et
c'est loin d'être rien, c'est un job très important. Mmh. Et on a des exemples comme ça dans nos différents métiers commerciaux, de recherche et d'innovation, et bien évidemment au marketing.
Et je ne veux pas m'immiscer dans les recrutements de L'Oréal, même si je m'intéresse évidemment à tous les recrutements en tant que coordinateur, mais je veux citer l'exemple de l'année dernière, de cette jeune femme qui pour le moment est toujours qui était de Strasbourg et qui a un master de théologie protestante.
De théologie protestante.
Voilà, absolument, et je l'ai vue.
Qui va rentrer chez L'Oréal.
Oui,
elle est
entrée et elle est en formation à l'Institut de la Sorbonne. Sorbonne, et je l'ai vue ces jours-ci, puisqu'elle est, elle est venue témoigner à Strasbourg, devant les étudiants de Strasbourg, pour leur montrer que ça existe, et elle est tout à fait, elle est un très bon agent de conviction, elle est charmante, et elle est tout à fait motivée, enfin, elle explique très bien comment sa formation elle-même, eh bien, lui permet d'apporter, de regarder du point de vue éthique certaines choses, et tout.
Donc, alors, ces étudiants, ils ont développé un argumentaire incroyable, pour arriver à se vendre, non?
Je dirais, au-delà de ça, Philippe est le bon exemple, aussi en interne, de la bonne adéquation entre des profils qu'on penserait plus business, issus des grandes formations de management, et puis ces profils littéraires pour une émulation très positive. Philippe, son manager aujourd'hui, on en discutait il n'y a pas très longtemps, elle est plus que convaincue de ce qu'elle a apporté à l'équipe et ce qu'elle apporte au quotidien dans la création et dans le développement des différents produits dont elle a la charge.
Mais alors, ces étudiants venant de filières littéraires que vous recrutez, Charles Arkwright, vous les recrutez à condition qu'ils parlent parfaitement l'anglais ou même pas?
Franchement, ça va dépendre de l'environnement de travail sur lequel ils vont évoluer.
Mais si je puis dire, pour ce qui est, excusez-moi, pour ce qui est de l'opération Phoenix, et nous le disons, en tout cas, nous disons aux jeunes qui sont candidats qu'ils ont effectivement grand intérêt à être tout à fait à un très bon niveau en anglais. Et il y a très peu d'entreprises qui...
Voilà. Oui, mais pour une multinationale en croissance comme L'Oréal, c'est quand même plus facile d'être audacieux, d'avoir des idées comme ça un peu hurlu-berlu pour aller recruter une spécialiste en théologie ou une archéologue. Quand on dégage beaucoup de bénéfices, évidemment, on prend pas beaucoup de risques.
Alors, il y a deux points dans votre question. D'abord, je pense que vous...
Non, parce qu'il y a une certaine crispation en ce moment au niveau des entreprises.
Pour nous, c'est vraiment des profils intéressants et des talents qui viennent s'ajouter aux talents du groupe, premièrement. Et deuxièmement, ça semble plus facile, mais en réalité, nous, c'est plus simple parce que c'est au sein de notre ADN. C'est pas une question de croissance, c'est pas une question d'international. C'est une question de culture d'entreprise et de culture de la... Je vous disais, notre métier, nous, c'est de révéler et de sublimer toutes les formes de beauté.
Mais
et pour ça, on a besoin de toutes
les entreprises ne raisonnent pas comme vous, tout de même, Bernard Desforges. C'est difficile de convaincre les entreprises, surtout en ce moment.
Mais il faut... Il y a différents types d'entreprises. Nous prenons l'exemple de PwC, où nous recrutons en nombre assez important chaque année.
PricewaterhouseCoopers.
Voilà, cabinet d'audit et de conseil. Et en audit, nous recrutons donc chaque année, par Phoenix, un certain nombre d'auditeurs juniors. Alors, vous allez me dire, auditeurs juniors, effectivement, là, on ne demande pas des poètes, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Mais on demande des gens, justement, extrêmement rigoureux. Et comme je le disais au début, les formations littéraires sont également des formations de rigueur. Moi, qui suis philologue, eh bien la philologie, c'est une par définition de la rigueur. Donc le chemin entre la philologie, la rigueur philologique et la rigueur dans l'audit, c'est pas si loin que ça. Ensuite, je voulais donner l'exemple sur l'archéologie, parce que l'archéologie, c'est un exemple extraordinaire, parce que l'archéologie, c'est une méthode. Alors, en fait, quand on regarde le schéma, l'organisation d'une fouille en archéologie, on s'aperçoit que c'est très proche d'un schéma de l'organisation d'un audit, sauf que c'est pas la même matière.
Charles Arkwright, dernière question pour L'Oréal. Les diplômés littéraires que vous recrutez, est-ce qu'ils sont recrutés au même tarif, au même salaire que les diplômés, on va dire, non pas des grandes écoles, mais des écoles de commerce moyennes?
Nous, on recrute tous nos cadres au même tarif, effectivement.
Donc c'est... Attendez, au même tarif, donc, une archéologue, vous la recrutez au même tarif qu'un HEC?
Mon archéologue, si elle est chef de produit, elle sera recrutée pour un salaire de chef de produit.
C'est le poste qui détermine le salaire.
De l'université, absolument.
Merci infiniment, Charles Arkwright, de nous avoir expliqué comment vous travaillez avec l'opération Phoenix pour intégrer donc de la diversité au sens de la formation dans le groupe L'Oréal. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec un voisin qui nous appelle de Porto Novo, au Bénin. Bonjour Venceslas.
Bonjour Alain, bonjour Marielle.
Venceslas, vous êtes en quatrième année de lettres, je crois, et vous ne trouvez pas de travail?
Non, je suis en troisième année de philosophie à l'École normale supérieure de Porto Novo.
D'accord, vous êtes en troisième année de philosophie, et pour l'instant, vous avez cherché du travail ou pas encore?
Non, pas encore, mais c'est la mentalité ici qui m'étonne en Afrique.
C'est-à-dire?
On pense très souvent que nous qui avons fait les séries littéraires, nous sommes condamnés pour l'enseignement.
Que voulez-vous dire?
Donc, Là, concrètement, je voulais dire que, par exemple, mon cas, nous qui sommes en philosophie, en philosophie aussi, nous sommes pluridimensionnels et nous sommes pluridisciplinaires. C'est-à-dire, nous faisons plusieurs choses à la fois. Mais les entreprises, par exemple, moi, j'ai des amis qui se moquent carrément de moi. Ça, là, c'est sûr.
Des amis qui sont, par exemple, en filière de gestion, de commerce?
Ouais, de gestion, banquier, finance, et consorts.
Que vous disent-ils?
Moi, je veux mourir à la craie.
Mais... Ah, que vous vous nourrissez à la craie. C'est une belle image.
Oui. Et bon, c'est tout comme si nous qui avons fait l'essai littéraire, nous sommes capables de gérer comme eux. Et je voulais demander si l'opération Phénix s'étend aussi en Afrique.
Ah, ben c'est une bonne question. Bernard Desforges, je peux vous répondre.
Hélas, elle n'est pas en Afrique, mais elle pourrait l'être. Et nous avons, il y a quelques années, 2-3 ans, été approchés par l'AFD.
La coopération française.
Voilà, par la coopération française, qui voulait justement, qui avait le projet de faire une expérience aussi en Afrique pour justement changer les mentalités. Parce que ce que vous décrivez, c'est très proche de la situation chez nous. C'est bien pour ça qu'on a inventé l'opération Phénix, et justement pour aider au changement culturel. Ça prendra du temps. Donc, on pourrait très bien imaginer que sur certains sites en Afrique, il y ait, à partir du moment où des entreprises s'unissent avec une université, on a la clé à ce moment-là pour qu'une opération Phénix s'organise. Et il faut des gens de bonne volonté des deux côtés.
Pierre-Henri Tavoyot, vous reconnaissez dans ce qu'a décrit cet étudiant une certaine forme d'ostracisme vécue par vos étudiants de philosophie par rapport à d'autres étudiants dans d'autres filières ou pas?
Alors, je crois que c'est en train, en France, de changer assez rapidement. C'est-à-dire que la prise de conscience a été faite. Ça a été long, hein, parce que c'est vrai que l'image que vous décrivez, monsieur, est très, très présente. C'est-à-dire l'idée qu'on fait de la philo, on fait de l'histoire, on fait des lettres, on va passer ensuite les concours, le CAPES, l'agrégation, et on sera prof. Voilà. Ce qui fait que, pendant très longtemps, d'ailleurs, notre formation s'est focalisée sur la préparation des professeurs, avec l'idée que, voilà. Et puis, on s'est aperçu un jour que, un, ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait moins de postes de recrutement. Deux, parce que à l'étranger, nos formations devenaient totalement illisibles. On a eu une expérience de ce point de vue-là. On a ouvert une antenne à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et c'est pas une antenne, c'est une université. On s'est aperçu que notre formation n'était pas lisible à l'international. Parce que précisément, l'agrégation à Abu Dhabi, on sait pas ce que c'est. Former des profs, on sait pas ce que c'est. Et donc, il a fallu aussi réfléchir sur le fait que dans un contexte de mondialisation des études, eh bien, il fallait pouvoir s'adresser à l'ensemble du monde et à former pas au métier de professeur de philosophie, mais à toute une série de métiers et rendre justement les compétences que l'on formait et qui sont bonnes. Je veux dire, là, il ne s'agit pas de changer, hein, il s'agit simplement de rendre notre cursus et notre diplôme plus lisible à l'international.
Et de convaincre que l'on fait aussi partie de la modernité.
Absolument.
Et de la mobilité du monde.
J'ai un exemple de ce point-là qui est très intéressant. À Abu Dhabi, justement, je rencontrais une ancienne étudiante de Paris 4 qui était aux ressources humaines de Veolia. Elle m'a dit, voilà, il faut bien reconnaître que pour rentrer à Veolia, par ailleurs, elle a fait une grande école. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font aussi deux cursus. Hein, grande école,
un cursus pour se faire plaisir et l'autre pour s'insérer.
Bon. Elle me dit, je dois reconnaître que pour rentrer chez Veolia, mon master de philo, ça a été un peu un obstacle. Mais maintenant que je suis chez Veolia, dans la progression de ma carrière, eh ben, mon master de philo, c'est un avantage colossal. Ça me permet d'avancer. Pour rentrer, c'était difficile, mais pour poursuivre et progresser dans la carrière, là, c'est vraiment la petite différence, même la grande différence, qui me fait aller plus vite que les autres. Donc, je trouve que ça, c'est un exemple très intéressant, de la même manière que d'autres témoignages d'une autre étudiante qui disait, oui, cette année, bon, je viens d'archéologie, il faut que je me cache, il faut que je fasse un peu comme tout le monde dans cette année de recrutement. Mais dans 2 ans, ils vont voir ce qu'ils vont voir dans l'entreprise.
Mais alors, on voit quoi? On voit une différence juste d'étiquette ou une différence de savoir-faire? Quelqu'un qui a justement un diplôme de philosophie, il a une autre relation aux autres, il a une autre façon de voir du sens dans les tâches qui lui sont affectées?
Il y a plein de choses. Il y a d'abord des compétences de raisonnement et des compétences d'expression. Oui. C'est pas niable, le fait d'écrire sans faute d'orthographe, par exemple, c'est pas non plus totalement sans intérêt.
Oui, puis on est revenu dans une civilisation de l'écrit aujourd'hui.
Surtout, on est face à une saturation d'informations. Dans un contexte de saturation d'informations, la clé, c'est pas de connaître, c'est pas de savoir-faire. La clé, c'est d'être capable d'organiser ces informations. Ben ça, en philo, je suis désolé, c'est exactement ce qu'on fait. On est face à une œuvre comme la phénoménologie de l'esprit, ben, c'est coton. Eh bien, on va essayer d'organiser cette information. Quand vous êtes capable de faire ça sur Hegel, je reprends l'exemple, vous êtes capable de faire ça pour n'importe quel type de données. Et donc, le défi aujourd'hui, c'est de comprendre le monde. C'est d'arriver à produire des grilles de lecture.
Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Des voisins nous appellent à une pause et nous vous rappelons tout de suite. Le numéro de téléphone, c'est le 33 1 84 22 71 71. On essaye d'appeler Arnold à Douala.
People want to know if the color of my skin is the color of my soul. And if so, then how would they know if they can let me in? Whose side was I on? But to ask why is it wrong if I am both different and strong? Blended like milk and coffee in one, this caramel skin with which I was born. It's taken long, but now I know it was just fear that made them talk so. But if they don't see, then they'll never know that what's inside me is more than skin tone.
If I tell you what I go through all my life inside, Charlie, you know go love today in my skin, no go love today in my skin. If I tell you what I go through all my life inside, Charlie, you know go love today in my skin, no go love today in my skin. When I dey Ghana, Ofli, followed by Afko, also Mulatto. Lastly, Obronipete. If I tell you what I go through for my life inside, Charlie, you know go love today in my skin. No go love today in my skin.
C'est bien My Skin, One Love de Kubelor, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons de la revanche possible ou pas possible des littéraires dans le milieu du travail devenu très difficile aujourd'hui. L'insertion professionnelle, trouver sa place dans le monde de l'entreprise. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Arnold est au bout du fil à Douala au Cameroun. Bonjour Arnold.
Bonjour Emmanuel.
Arnold, vous êtes en quatrième année de lettres, c'est bien ça?
Lettres françaises et anglaises.
Ouais. Ah d'accord. Lettres françaises et anglaises. Et vous cherchez du travail ou vous n'avez pas encore commencé?
Pas encore, mais quand j'essaie de regarder autour de moi, je vois que c'est vraiment impossible. Hein. Le fait est que la mentalité du Cameroun n'est pas encore aussi évoluée, entre guillemets, que la vôtre.
C'est-à-dire?
Par exemple, un diplôme littéraire ici au Cameroun est considéré comme pour ceux qui voudraient travailler pour l'État, ou enseigner, ou comme on fait, avoir un salaire modique à la fin du mois.
Mais alors, vos amis qui tentent de trouver du travail, quand ils passent des entretiens dans les entreprises, que leur dit-on?
Tous sont obligés de recommencer une autre filière technique, donc ça, comme ça, professionnelle, pour trouver un travail. Et si personne n'est embauché avec son master de lettres, ou comme on fait, à moins que ce soit dans une structure d'État, il faudra passer par un concours.
Un concours de la fonction publique, oui.
Oui, bien corrompu. C'est souvent cela. C'est pas toujours les meilleurs qui passent. Et tout ce qui va avec. Alors, j'aimerais proposer quelque chose au gouvernement qui nous écoute, peut-être.
Allez-y.
Je proposerais que l'on professionnalise les enseignements littéraires. Par exemple, on pourrait, pour les étudiants de lettres, les former à l'édition dès le départ. Ou appliquer les lettres à l'autre domaine. Les sciences humaines ou toute autre chose. Cela permettrait plus aux étudiants de s'adapter facilement au monde de l'emploi.
Oui, Bernard Desforges.
Oui, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle la professionnalisation des formations qui existent et qui s'est développée en France. C'est-à-dire qu'il y a la formation et puis on essaye effectivement de la finaliser vers une discipline, comme vous le dites, l'édition.
On garde le même cadre et puis on distille des modules plus professionnalisants à l'intérieur.
Voilà. Hein. Et c'est ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps et qui est une autre manière de faire, qui n'est pas celle de l'opération Phoenix, puisque l'opération Phoenix, elle, s'est fondée sur l'idée qu'on veut des gens qui ont une bonne formation générale dans leur discipline et qui ensuite, étant face à des entreprises convaincues de leur intérêt, évidemment recevront ce qu'on a dit tout à l'heure, comme L'Oréal l'a bien décrit. Mais il y a l'autre formule, effectivement, qui est une façon
De commencer plus en amont, de modifier l'enseignement.
Il y a des dispositifs qui existent. Là encore, je prends un exemple dans ma discipline. En philo, on a donc une licence en 3 ans, et puis ensuite, vous avez le choix entre un master recherche et d'autres masters qui sont des masters déjà professionnels. Donc, par exemple, on en a un qui est très révélateur, qui est le master en gestion éditoriale que dirige Jean-Michel Beignet. Il s'agit quoi ? Il s'agit de former des étudiants, par exemple, au métier du web. Parce qu'on a justement perçu, même s'ils n'ont pas de compétences techniques, que ces étudiants étaient capables de gérer, comme je disais tout à l'heure, et d'organiser de l'information. Moi, j'avais une étudiante qui était inscrite en master avec moi, qui ne savait pas comment marcher un ordinateur en master 1. Elle n'utilisait pas encore, c'est un truc inimaginable. Eh bien, elle est entrée dans ce master là et elle est désormais journaliste web et gère des contenus médiatiques, des contenus sur le web. Donc quelque chose, ça peut aller très vite. Et les formations opérationnelles, on les acquiert très vite. La culture générale, ça demande du temps. Donc stratégiquement, si moi, même pour mon enfant, je me dis, mon enfant, je lui demande d'avoir une formation de base parce que ça prend du temps. Et puis la formation au métier, ça peut aller.
Le général et la spécialisation ensuite.
Le général, on peut pas.
Et le pratique ensuite. D'accord. Nous sommes en ligne avec Achille qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Achille. Vous êtes consultant, je crois.
Oui, bonjour.
Oui, vous êtes consultant,
oui,
c'est
bonjour.
Bien ça. Nous vous écoutons.
Oui, absolument. Oui. Non, je pense que c'est un faux problème, un faux débat qu'on a, et surtout chez nous dans les pays africains. On considère que les littéraires ne sont pas bons pour travailler en entreprise, ce qui est totalement faux. Parce qu'à la base aujourd'hui, avec tous les changements qu'il y a dans les entreprises, les compétences qu'il faut sans cesse renouveler, ce qui est important, c'est la capacité à réfléchir, à concevoir. Et un bon littéraire a absolument les moyens de travailler aussi bien que Mathieu, tout ce que vous voulez par là. Donc moi, je crois que c'est un gros débat qui nuit beaucoup, en fait, aux étudiants chez vous. Les gens sont formés, ils sont appris à aller sur les marchés du travail, mais ils ont du mal à s'insérer parce qu'on ne comprend pas comment les utiliser.
Mais alors vous-même, vous êtes consultant, est-ce qu'il vous arrive de recruter des diplômés de filières littéraires ou vous travaillez tout seul?
Absolument. Il y a des postes pour lesquels on a besoin que les gens aient des capacités de réflexion. Donc, à partir du moment où on a un bon littéraire, quelqu'un qui a Bac+4, Bac+5 avec, dans la filière dite littéraire, et qui a un bon niveau de réflexion, bonne approche de la conception des choses, c'est tout à fait possible de le prendre.
Eh bien, merci pour ce témoignage, Achille. Il y a une idée reçue aussi qui circule, vous allez me dire si aujourd'hui elle est en passe de disparaître ou pas. C'est tout de même, chez les recruteurs, l'idée qu'un étudiant qui vient d'un cursus d'université, surtout quand il s'agit de filières littéraires, n'a pas été trié dans le fond. Même si en réalité le taux d'échec en licence est affolant.
C'est la réponse. En fait, on a une sélection qui est très rude.
Un master en philo, on se dit, ça doit pas être finalement très difficile par rapport à une école de commerce.
Alors la sélection est de fait très très rude, c'est-à-dire que vous avez un taux d'échec en première année d'université qui est très important. Et en plus, le fait que, malgré tout, les premières années d'université sont assez peu encadrées, donc les étudiants sont laissés un peu à eux-mêmes, ça est en train d'un peu d'évoluer, mais c'est un peu ça. Donc, l'étudiant qui passe tous ces barrages, le taux d'échec en première année, le fait qu'il est assez peu encadré, donc ça repose sur lui, ça repose sur sa motivation. Le fait que malgré tout, il y a quand même une sélection qui arrive au niveau du master, notamment du master 1.
C'est-à-dire sa capacité à survivre dans l'université, finalement.
Je dirais pas ça, faut pas exagérer, parce que
là, vous n'allez pas comparer avec une école de commerce privée, quand même, où tout est mâché.
Capacité à survivre, il faut de la motivation.
C'est ça, on est bien d'accord.
Non, mais ce que je veux dire, on n'est pas dans le registre de la survie. Mais voilà, là, on est quand même dans un parcours qui est un parcours qui témoigne du fait que ce sont des gens souvent plus autonomes.
Est-ce qu'il n'y a pas encore un problème culturel chez les étudiants des filières littéraires qui, par définition, sont venus là aussi parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de passer leur vie dans un cabinet d'audit? Par exemple, Bernard Desforges.
Je pense que ça peut arriver, mais ce n'est pas ça. Je crois qu'on a surtout beaucoup d'a priori, vous avez employé le terme tout à l'heure, un a priori qui commence dès le secondaire, de toute façon, puisqu'en France, on a accrédité l'idée que si on fait des formations littéraires, on va directement au chômage. Donc évidemment, ça c'est terrible quand les trois quart des parents sont convaincus de cela, alors que c'est totalement faux. Ensuite, on a une sorte de, comment dirais-je, d'idée sur l'université que vous venez d'évoquer, sur le fait qu'effectivement, c'est une, vu à travers des événements, hélas, trop courants.
Mais l'idée aussi que l'intérêt intellectuel est plus fort que quand on travaille dans un cabinet d'audit. Vous-même, oui, n'étiez-vous pas plus heureux lorsque vous faisiez des traductions en tant qu'helléniste?
Mais vous savez, je continue à faire des traductions en même temps. Mais non, c'est pas du tout comme ça. Il faut que les jeunes fassent ce qu'ils aiment. En fait, les jeunes, déjà, quand ils sont dans le secondaire ou quand ils arrivent au début des choix professionnels, ils ne savent pas ce que c'est qu'un cabinet d'audit. Donc, de toute façon, ils n'ont pas de rejet de cabinet d'audit, ils ne savent même pas que ça existe, sauf s'ils sont dans ce milieu-là. Donc, en fait, ils aiment les disciplines dans lesquelles ils s'orientent, et quand ils se posent la question du métier, là, ils regardent de plus près. Et moi, je peux vous citer des exemples de jeunes recrutés tout récemment dans le cadre justement de notre cabinet, qui ne connaissaient pas l'opération Phoenix, qui donc, sous la pression sociale, familiale, etc., ont renoncé à leur passion qui était pour la littérature, sont donc allés dans une école de commerce où ils se sont ennuyés, comme ils me l'ont dit de façon tout à fait évidente, et ensuite, ayant découvert qu'ils pouvaient rejoindre les entreprises via Phoenix, m'ont dit, ben finalement, on regrette beaucoup d'avoir subi cette pression qui nous a coupé de ce qui était l'aboutissement de notre formation.
Conclusion, ne luttez pas contre vos passions.
Ah ben ça, je pense, ça c'est ce que je dis à mes enfants.
Apprivoisez-les, d'accord. Ceci dit, avec la montée du chômage, quand on voit que le moindre poste reçoit 6 000 CV et que l'immense majorité des CV ne sont pas lus, on peut se demander si l'opération Phoenix ne sera pas à terme emporté par l'ouragan de la crise, non ?
Ah mais il faut jamais être pessimiste, parce que si vous voulez, on n'aurait même pas lancé l'opération Phoenix si on avait pensé ainsi.
Oui, c'était avant 2008 quand même. Merci en tout cas à tous les deux, Bernard Desforges, coordinateur de l'opération Phoenix, et Pierre-Henri Tavoyot de l'Université Paris 4 Sorbonne, professeur de philosophie. Merci à vous les voisins et les voisines pour vos témoignages à l'oral sur Facebook. Lundi, 7 milliards de voisins, le commerce sur Internet, peut-on tout acheter sans toucher ? Le e-commerce menace-t-il vraiment les magasins, vos messages sur Facebook et sur notre répondeur, bien sûr, pendant tout le week-end, 33 1 84 22 71 71. J'ai oublié de dire que Phoenix, l'opération, c'est le 9 avril pour les voisins parisiens à la Cité Internationale, boulevard Jourdan. Merci à toute l'équipe. À lundi, les voisins.